Et nous allons donc passer au sujet que m'a demandé très gentiment David Altar, c'est de parler de la Torah universelle. Rappelons-nous une chose, la Torah a été donnée au peuple d'Israël. Pour qui? Pour le monde entier. C'est-à-dire, il y a ici, dès le départ, si vous voulez, une sorte de dualité. Quand on parle de la Torah, c'est la Torah du peuple d'Israël, c'est vrai, mais cette Torah a une finalité universelle. Et ça se traduit aussi bien dans des textes très clairs du Tanakh, enfin de la Bible, que des textes des Chachamim. Rappelons tout simplement ce que dit la Torah, c'est que nous sommes un peuple élu. Le fait d'être un peuple élu implique immédiatement l'universel. En effet, si vous êtes élu, si vous êtes élu au sein d'une communauté, et cette communauté, c'est la communauté de l'humanité. C'est au sein de l'humanité que nous sommes élus. Cela donc suppose que vous avez quelque chose à dire à l'ensemble de l'humanité. De plus, c'est le fondement, c'est ce que disait Emmanuel Levinas, l'idée de l'élection d'Israël, c'est le fondement de la tolérance. Parce que, étant donné que je suis un élu, je ne demande pas aux autres de l'être aussi. Chacun, donc, a sa particularité, sa spécificité, sa manière d'être homme, comme disait Manitou. Et c'est à partir de la manière d'être homme d'Israël qu'il y a un rayonnement sur l'ensemble des différentes manières d'être homme qui sont les nations. Donc, il y a à la fois particularisme et universel. On pourrait dire même que le particularisme est le fondement de l'universel, contrairement à ce qu'on appelle le cosmopolitisme. Cette distinction faite à nouveau par Manitou, c'est que le cosmopolitisme ne tient pas compte des différences entre les différentes identités humaines, et donc le message d'une Torah, s'il y en a une, serait exactement égal pour l'ensemble de l'humanité. C'est ce qu'a voulu, par exemple, faire le christianisme, quand le christianisme a déclaré toute l'humanité est Israël. Or, le Rav Kook dit c'est une catastrophe au niveau pédagogique et moral parce que ça implique que vous voulez donner un statut d'Israël à des peuples qui sont encore plongés dans la barbarie et dans l'immoralité. Et ça ne fait pas avancer, bien au contraire, ça crée des illusions d'être déjà Israël alors qu'on ne l'est pas. Ça, si vous voulez, donc c'est l'idée même du peuple élu qui fonde l'universel tel que nous le voyons dans la Torah. Il y a également des midrashim assez extraordinaires quand même. C'est que les midrashim nous disent que Dieu a voulu donner la Torah aux nations avant de la proposer à Israël. Quelle que soit la signification que l'on donne de manière précise à ces midrashim, c'est extrêmement sidérant, c'est inouï de voir qu'un peuple qui a reçu une Torah dit qu'elle n'était pas destinée à lui, mais qu'elle était destinée à l'humanité. Et on peut aller plus loin. Par exemple, vous avez ce texte de Talmud dans le traité de Shabbat qui pose la question de savoir pourquoi est-ce que la montagne sur laquelle la Torah a été donnée s'appelle le mont Sinaï. Sina, il nous rappelle le mot hébreu sina, qui veut dire la haine, l'animosité. Et la Guémara dit, mais c'est parce que sur le mont Sinaï est descendue la haine des nations. Sina, le umot haola. C'est quoi la haine des nations? Qui c'est qui haït? Est-ce que ce sont les nations qui haïssent Israël ou Israël qui haït les nations? Peu importe. Cela veut dire en tout cas qu'il y a un conflit qui éclate entre Israël et les nations à partir du moment où la Torah est donnée. Mais pourquoi? Si la Torah n'était pas destinée également aux nations dans l'a priori, alors pourquoi est-ce qu'il y aurait à ce propos une jalousie? Si par exemple personne n'est jaloux, par exemple la girafe n'est pas jalouse de la chatte. La girafe est mariée à un girafe et la chatte est mariée à un chat. Et il peut y avoir de convoitise. Par contre, entre deux couples de chats, il peut y avoir convoitise. La Torah dit, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Et donc, si il y a rancœur de la part des nations du fait qu'Israël a reçu la Torah, c'est-à-dire qu'a priori, elle est destinée également aux nations. Et donc, c'est en soi l'annonce du fait qu'un jour viendra où ils pourront la recevoir, la fameuse Torah. Mais alors, comment ce processus sera-t-il possible? On n'enseigne pas la Torah aux goyim. Alors tout cela sera le sujet de notre étude aujourd'hui. Rappelons, je voudrais d'abord commencer par une petite remarque. d'un philosophe français d'origine juive du nom d'Henri Bergson. Henri Bergson, à cheval sur le 19e et le 20e siècle, avait grandi dans une atmosphère quelque peu religieuse, juive effectivement, mais il s'était très vite éloigné, lui et ses parents d'ailleurs, s'était éloigné de la tradition. Et toute sa vie, il a été déchiré en fait entre son appartenance de principe au judaïsme et son attirance pour le christianisme. Il a pu même écrire que le christianisme était supérieur au judaïsme pour une raison très simple, c'est que alors que le judaïsme parle d'un Dieu qui... Excusez-moi une petite seconde. Excusez-moi, c'était un tempestif à la porte. Oui, alors pour Bergson, alors que le judaïsme parle d'un Dieu qui ne se préoccupe que de son peuple, le christianisme, dit Bergson, a élargi l'image de Dieu à toute l'humanité. Alors évidemment, quand on réfléchit un peu objectivement à ce que dit Bergson, c'est des bêtises. Pourquoi c'est des bêtises? Parce que c'est exactement le contraire. Il suffit de lire, par exemple, dans les prophètes, que les prophètes parlent à l'humanité tout entière. Tous les prophètes, le plus clair, par exemple, pensez donc à Yona, qui est envoyé dans la ville de Ninive. Il est envoyé dans la ville de Ninive pour leur faire des remontrances au nom du Dieu d'Israël. De même, le prophète Yeshayahu, de même d'ailleurs Moshe Rabbeinu aussi parle aux nations. Donc, cette idée que le judaïsme n'aurait pas de message universel, que le Dieu des Juifs ne serait qu'un Dieu local, est absolument absurde et contraire au texte même de la Bible. Tandis que, d'ailleurs, on peut également chercher les Tanaïm. Par exemple, vous connaissez l'enseignement du Rabbi Akiva, le grand maître, le plus grand des maîtres de la Mishnah, qui vous dit « Chaviv Adam shenivra betzelem Elohim » L'homme est chérissable parce qu'il est créé à l'image de Dieu. Or, quand il dit l'homme, il parle ici de tous les hommes et pas seulement d'Israël. Donc, il est évident que le judaïsme a un message universel. Mais j'irai plus loin. Le christianisme dit exactement le contraire. Pour le christianisme, il y a un principe qui est qu'il n'y a pas de salut en dehors de l'exil, en dehors de l'Église. C'est-à-dire que c'est justement une restriction du champ de l'appartenance à la divinité. Si vous êtes chrétien, alors vous êtes sauvé, vous avez la rédemption, tandis que si vous ne l'êtes pas, eh bien c'est fichu pour vous, même si vous êtes le plus grand des tzaddikim. Donc en fait, Bergson dit des choses qu'il est facile en 2 minutes de réfuter. Alors la question se pose, pourquoi est-ce qu'il l'a dit? Parce que Bergson n'était quand même pas un imbécile, et c'était un, on peut dire, quelqu'un qui connaissait très bien, ses sources. Exactement, par exemple, David Benarouche nous fait remarquer que Hachem a aussi donné un prophète aux nations à la personne de Bilaam. Peut-on imaginer d'autres prophètes pour les nations à l'avenir? Ça, c'est une très bonne question, on en parlera peut-être par la suite, je le note. D'accord, on y arrivera. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une évidence, et pourtant Bergson a dit le contraire. Ça me préoccupe. J'aimerais comprendre pourquoi est-ce qu'un juif qui connaissait si bien les sources, finalement, a pu dire une telle bêtise. La réponse, c'est qu'il avait raison sur le plan de la réalité concrète. C'est-à-dire, au temps de Bergson, au temps de l'émancipation des juifs, les juifs sortaient d'un long exil dans lequel, en fait, il y avait deux préoccupations fondamentales. Les Juifs étaient soit préoccupés par leur survie immédiate, il y avait des persécutions. Or, quand on est en danger permanent de perdre son existence terrestre, on n'a pas le temps de s'occuper des autres. Et à part ça, à partir du moment où il y a l'émancipation des Juifs, alors il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Les Juifs ont été préoccupés d'une seule chose, c'est de se fondre dans le décor, de disparaître de la surface. Et donc d'entretenir une sorte de judaïsme confiné sur lui-même pour surtout ne pas choquer la voie publique. Vous avez qu'à voir, par exemple, les synagogues qui ont été construites en France au XIXe siècle sont toutes un peu en retrait par rapport à la voie publique et ne font pas trop de vacarme. Et donc, on peut comprendre que dans la réalité concrète, les Juifs n'avaient pas la capacité d'avoir un message universel pratique. À ce propos, je voudrais à nouveau citer Jean-Jacques Rousseau, que j'ai cité plusieurs fois, je crois, dans ses cours, mais à mon avis, c'est tout à fait pertinent pour maintenant. Jean-Jacques Rousseau dit la chose suivante dans l'Émile. Il dit, en Sorbonne, la Sorbonne à l'époque était une université religieuse, comme toutes les universités, en Sorbonne, il est tout à fait évident que les prophéties d'Isaïe parlent de Jésus. Il est tout à fait évident, avec la même évidence pour les rabbins d'Amsterdam, que les prophéties d'Isaïe n'ont rien à voir avec Jésus. Et c'est pourquoi je pense que je ne comprendrai les Juifs que lorsqu'ils auront un État à eux, avec des universités dans lesquelles ils pourront s'exprimer sans crainte. C'est alors que nous saurons ce qu'ils ont à nous dire. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Ça veut dire que depuis que l'État d'Israël a été fondé, nous sommes enfin revenus à la situation dans laquelle nous pouvons remplir notre rôle universel, et ce rôle universel doit être rempli à partir de maintenant. Et le problème, c'est savoir est-ce que nous avons quelque chose à dire aux nations. C'est là qu'il y a hésitation, qu'il y a timidité de la part des Juifs, aussi bien des autorités spirituelles les plus grandes, évidemment, mais également c'est le simple Juif qui se dit, mais qu'est-ce que j'ai à dire aux goyim? Je n'ai rien à leur dire. Le fait que les Juifs pensent qu'ils n'ont rien à dire aux goyim, c'est une des raisons pour lesquelles beaucoup de Juifs ne se sentent pas concernés par la Torah. Parce qu'ils se disent, la Torah n'a rien à voir, n'a rien de pertinent à proposer aux problématiques de l'humanité actuelle. Ce qui est tout à fait faux, mais il faut pour cela la prendre, et c'est une des raisons, je pense, pour lesquelles David m'a demandé de vous en parler. Alors, tout d'abord, nous allons maintenant rentrer un peu plus dans les considérations de Torah. Tout d'abord, rappelez-vous une chose importante. Les Rishonim, les rabbins du Moyen Âge ont dit que les 10 commandements qui ont été donnés au Sinaï sont à la source de toutes les mitzvot. C'est-à-dire, si vous prenez l'ensemble des mitzvot, vous pouvez les attribuer telle et telle mitzvah à tel et tel commandement. Par exemple, le Ramban, Rabbi Moshe Ben Nachman, le Nachmanide, comme on dit, a fait une liste des mitzvot selon la division des 10 commandements. Qu'est-ce qui appartient au Shabbat? Qu'est-ce qui appartient à une nature à quoi? Etc. Et à ce propos, certains ont fait remarquer que le nombre des lettres des 10 commandements est de, je vous donne 3 secondes pour réfléchir, combien de lettres y a-t-il dans les 10 commandements? Vous allez me dire, dans les 10 commandements, combien de lettres en tout? Eh bien, si vous réfléchissez bien, voilà, je l'attendais celle-là. Quelqu'un a répondu ici, Benjamin Drahé, que c'est 613, ce qui est faux. Il y en a 620. Pourquoi 620? Je crois que la différence, c'est 7. 613 plus 7 égale 620. 613, ce sont donc les commandements donnés à Israël, et les 7 qui restent, ce sont les commandements donnés aux nations, ce qu'on appelle les mitzvot du Noé, les commandements des fils de Noé, la loi Noaki. Donc ça veut dire que pour que la Torah soit donnée, elle doit être complète, et pour qu'elle soit complète, il faut qu'il y ait 620 commandements. Donc 613 pour Israël et 7 pour les nations. Remarquez une chose intéressante, c'est que la guématria du mot 620, c'est Keter. Keter, la couronne. Ce qui veut dire que Dieu ne a sa couronne que lorsqu'il règne également sur les nations. Et c'est la raison pour laquelle nous avons dans la Torah, la paracha, dans laquelle il est question du don de la Torah, c'est la paracha de Yitro, n'est-ce pas? Yitro. Qui est Yitro? Yitro est un non-juif. Alors, tout un débat dans les Midrashim pour savoir est-ce que Yitro est venu avant le don de la Torah ou est-ce qu'il est venu après le don de la Torah? Alors, essayons d'examiner chacune des deux options. Si Yitro est venu avant le don de la Torah, et c'est la raison pour laquelle la Torah parle de la venue de Yitro juste avant les 10 commandements, ça veut dire que pour que la Torah soit donnée, il faut qu'il y ait un représentant des nations. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait une ambassade des goyim qui soit présente lorsque la Torah est donnée. C'est pour ça qu'il faut que Yitro soit là pour que la Torah puisse être donnée. Donc, la Torah, d'emblée, est universelle. Maintenant, si on dit, Arkama mitzvot de Noach emgam mofia betariag mitzvot, le fait remarquer Midrash Shemer. C'est-à-dire que les sept commandements font partie des 613. Oui, mais ce n'est pas exactement de la même manière. Et ça, il faut étudier pourquoi. Alors que, par exemple, les 613 commandements rentrent dans le détail, les sept commandements rentrent dans des généralités, par exemple. Et puis, les règles ne sont pas exactement les mêmes. Mais il y a l'autre opinion qui nous dit non, Yitro est venu après que la Torah soit donnée. Très bien. Alors, si Yitro est venu après que la Torah soit donnée, pourquoi est-ce que dans le livre de la Torah, il est mentionné avant? C'est encore plus fort. Ça veut dire que même si Yitro, historiquement, est venu après, il faut qu'on en parle avant, sinon la Torah ne sera pas donnée. Rappelez-vous aussi une chose importante, c'est que le jour de la fête de Shavuot, qui commémore le don de la Torah aux enfants d'Israël, le jour de la fête de Shavuot, nous lisons le rouleau de Ruth. Ruth nous convertit au judaïsme. L'ancêtre du Mashiach, l'ancêtre du roi David et donc par voie de conséquence du Mashiach. C'est-à-dire que la rédemption d'Israël et celle du monde ne peut pas se produire s'il n'y a pas une participation des nations, même de la nation la plus éloignée, les Moabites. Et cela est rappelé le jour de la fête de Shavuot. Donc il y a une dimension universelle immédiate au nom de la Torah. Évidemment, ce n'est pas forcément la même chose. Les lois qui sont données aux enfants d'Israël ne sont pas les lois qui sont données aux nations, comme de même que les règles qui sont données aux Kohanim ne sont pas celles qui sont données à ceux qui ne sont pas des Kohanim, etc. De même, les mitzvot des hommes, les mitzvot des femmes, les mitzvot du roi, les mitzvot des enfants, les mitzvot, etc., etc. Il y a donc des mitzvot qui concernent l'ensemble de l'humanité. Maintenant, rappelons une chose. Le don de la Torah est mentionné dans la Torah plusieurs fois. Essentiellement dans la paracha de Yitro, puis dans Mishpatim. Ça, c'est dans le livre de Shemot. Et puis, c'est rappelé un peu partout également, surtout dans la paracha de Va'etranan, dans le livre de Devarim. Et puis, il y a encore une autre fois, qu'on oublie parfois, c'est le don de la Torah est mentionné également pour lors de la paracha de Zot HaBerakha, au moment du dernier discours de Moshe avant sa mort, quand il va bénir les enfants d'Israël. Et alors, il dit Hashem Misinaï Ba, Dieu est venu du Sinaï. Et les Chachamim ont dit que quand Moïse a entendu la voix de Dieu à ce moment-là, il a eu le sentiment qu'il revenait au mont Sinaï. Que la voix du Sinaï qui s'était éteinte était en train de se rallumer. Tiens, il y a ici une question. Quand on parle des nations, y a-t-il des différences entre ces nations chinois, arabes, indiens? Non, la Torah ne fait aucune différence. Ça va pas, non. C'est évident qu'il y a des différences. Je sais pas, est-ce qu'on a besoin du reste d'en parler? C'est une évidence. Quand vous parlez à un Chinois, vous ne parlez pas à un Arabe ou à un Indien, même sans rentrer dans les stéréotypes. Il y a des sensibilités différentes et donc il y a une manière différente pour la Torah de s'adresser à ces nations. Mais je voudrais rentrer dans le sujet, vous allez voir, on va en parler tout de suite. Quand Moshe, au moment de sa mort, se rappelle du mont Sinaï. Alors il dit un verset un peu compliqué, je vais vous le traduire aussi, mais écoutez la tonalité. Hashem Misinaï Ba. Dieu est venu du Sinaï. Vezarah Misair Lamo. Il a brillé depuis le Seir pour eux. Ophia Mehar Paran. Il s'est manifesté depuis la montagne de Paran. Ve'ata Mirevevot Kodesh. Il est venu des myriades de saints. Mimino, dans sa droite, Esh Dat Lamo, un feu de loi pour eux. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il y a des midrashim. Je rappelais ici, par exemple, le midrash Sifri, sur un des midrashim les plus autorisés, sur ce verset dans Devarim, qui dit que Dieu a parlé au mont Sinaï en quatre langues différentes. Quatre langues. Bien donc. C'est comment? Hashem mi Sinaï ba. Dieu est venu du Sinaï. C'est le Shona Kodesh. C'est la langue de la sainteté, c'est-à-dire l'hébreu. Donc Dieu a parlé en hébreu. Vezarah mis-Se'ir Lamo, il a brillé depuis Se'ir. Se'ir, c'est la montagne des Édomites. Les Édomites sont l'archétype des Romains et des chrétiens. Que dit le Midrash? Il leur a parlé en latin. C'est la Lachon Romi. C'est-à-dire que Dieu a parlé au Sinaï en latin. Il avait besoin de parler en latin, vraiment. Ophia mehar paran, il s'est manifesté depuis la montagne de Paran, c'est qu'il a parlé en arabe, lachon aravi, puisque Ishmaël vivait dans le désert de Paran. Ve'ata mirvot kodesh, il est venu depuis les myriades d'êtres saints, ça c'est lachon arami, l'araméen. C'est donc comme si Dieu, il y a un autre midrash qui dit que Dieu a parlé en pour l'instant, commençons par quatre. Donc, l'hébreu, le latin, l'arabe et l'araméen, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute l'humanité, selon les différentes civilisations, a une certaine réceptivité de la Torah. Et donc, si vous prenez la Torah et que vous la traduisez en latin, alors, après différentes déformations, des filtres, des changements, etc., ça devient le christianisme. Et si vous prenez la Torah et que vous la dites en arabe, à travers différentes déformations et distorsions, finalement, ça devient le Coran. Et si vous prenez la Torah et que vous la traduisez en termes d'araméen, l'araméen étant la langue universelle, la lingua franca de l'Antiquité, c'est-à-dire vous la dites en anglais, c'est-à-dire vous la transmettez dans le langage de la civilisation universelle, en humanisme, ça vous donne donc de l'humanisme cosmopolitique et progressif. C'est-à-dire que la Torah filtrée est filtrée de différentes manières, elle est reçue chacun selon sa manière. Alors, ça ne légitime pas au niveau de la halakha, ni le christianisme, ni l'islam, ni tout le reste, mais ça veut dire quand même que ces différentes productions spirituelles sont inspirées du rayonnement de la Torah. Bonjour, Rav. La Torah ne mentionne pas la civilisation chinoise. Pourquoi? Que faisons-nous avec le grec? Très bonne question. Alors, je note, hein, je ne vais pas tout parler, je vais pas parler de tout là, mais attendez, je mets les Chinois, les Grecs. S'il nous reste du temps, on en parlera. Vous avez demandé également, est-ce qu'il y a des prophètes pour les nations, etc. Une seconde, on ne peut pas tout faire à la fois. Bon, alors je reviens à notre sujet. Il y a un midrash qui va beaucoup plus loin que ce que nous avons dit là, c'est que chaque parole de Dieu au mont Sinaï s'est subdivisée en 70 langages. 70, c'est le nombre archétype des nations dans la paracha de Noé. Et donc, les Noachides, les nations du monde, ont entendu chacun la Torah dans leur langage. Alors là, c'est pas si simple que ça, puisqu'il est dit également dans les Midrashim que les Goyim n'ont pas voulu recevoir la Torah. Alors c'est quoi cette histoire d'une Torah en 70 langues? Et Rabbi Moshe Alcher, qui vivait entre autres à Tzfat au XVIe siècle, qui était celui qui étudiait en Chavruta avec Rabbi Yosef Karo, l'auteur du Tanaour, donc une autorité importante, dans son commentaire sur la Torah, dit que les paroles des 70, les 70 langages de la Torah ont été reçus par les 70 Sarim, c'est-à-dire les anges tutélaires des nations. C'est-à-dire que les nations elles-mêmes n'ont pas reçu la Torah, mais leurs anges tutélaires les ont reçus. C'est quoi un ange tutélaire? L'ange tutélaire, ça veut dire le rôle que remplit cette nation dans l'histoire de Dieu. C'est-à-dire, Dieu est intéressé à faire avancer différentes histoires. Il y a l'histoire des nations, et cette volonté de Dieu pour une nation est représentée comme étant un ange, cet ange tutélaire. Question de Rabbi Moshe Alcher. Oui, mais si ce n'est que leurs anges qui ont reçu la Torah, finalement, ça a servi à quoi pour les nations? Il répond, mais ils ont entendu l'écho. Ils n'ont pas entendu la parole, mais ils ont entendu l'écho de la parole. Et ça, c'est très fort. Ça veut dire que dans les différents développements des différentes civilisations, il y a un écho de la parole de Dieu qui se manifeste à travers les différentes intuitions spirituelles et morales. Alors on peut ne pas être satisfait de ces intuitions telles qu'elles sont là-bas, mais elles sont voulues par le Créateur finalement. C'est-à-dire, comme dit Maïmonide, l'apparition du christianisme et de l'islam, par exemple, ça fait partie d'un projet, ça fait partie d'un projet historique qui prépare les nations au message d'Israël lors de la Géoula, par exemple, par le Mashiach. Donc il y a quand même quelque chose qui résonne. C'est la raison pour laquelle les nations parfois sont attirées par le judaïsme également. Il y a un texte du prophète Zécharia. Mais avant de passer au texte du prophète Zécharia, alors il y a, s'il y a, donc je veux revenir à l'histoire de l'écho. S'il y a un écho chez les nations, alors cet écho peut être exploité. Il y a une phrase que nous récitons deux fois par jour par amour. C'est la phrase bien connue, Shema Israël. Hachem Eloheinu, Hachem Echad. Écoute, Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Alors, j'ai pas très bien compris ce que ça peut vouloir dire. Parce que, si c'est comme ça veut dire que, qu'est-ce que signifie cette phrase? Certains disent que c'est l'expression, c'est la profession de foi du monothéisme hébraïque. Dieu est un. C'est très joli, mais c'est pas ça que dit la phrase. Si vous rentrez dans le détail, c'est bien le contraire. L'Éternel est notre Dieu, Rachid dit, et pas celui des nations. Ah, attention, si l'Éternel n'est pas le Dieu des nations, alors qui est le Dieu des nations? Cela suppose un certain polythéisme, qu'à Dieu ne plaise. Chas v'shalom, le judaïsme n'admet pas le polythéisme. Et pourtant, le Midrash est très clair. L'Éternel est notre Dieu et non pas celui des nations. Mais, ça continue, Hachem Echad, Dieu est un. Ça veut dire qu'un jour, il sera reconnu par l'ensemble des nations. C'est-à-dire pour l'instant, le message de la divinité est filtré chez les goyim par les différents sarim, les différents archanges, les anges tutélaires des nations, mais cela n'est que éphémère, c'est temporaire. Un jour, ça changera. Les nations reconnaîtront l'unité de Dieu. C'est pour ça qu'on dit, Bayom ahu Hachem Echad, en ce jour, Dieu sera un et son nom un. Ce qui veut dire que pour l'instant, son nom n'est pas un. Il est nommé de différentes manières. Viendra un temps où son unité sera reconnue par l'ensemble des nations. Hachem Echad ou Shmo Echad. Maintenant, le schéma Israël, écoute Israël, cela veut dire que, quand nous affirmons tous les jours, écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu pour l'instant et pas celui des nations, c'est l'engagement d'une dynamique au niveau de l'histoire. C'est-à-dire que plus l'histoire avance, plus c'est le rôle d'Israël de faire connaître la volonté de Dieu. Il y a à ce propos un verset dans le livre de Vayikra. On dit comme ça, Vehu'ed, Vehu'ra'a, O Shama, Imlo Yagid, Venasa Avonu. Si quelqu'un est témoin de la dommage, ou bien qu'il a vu ou qu'il a entendu, s'il ne le dit pas, c'est-à-dire s'il ne va pas témoigner au tribunal, il portera sa faute. Alors le Midrash dit, le Midrash Vayikra Rabba, c'est Vehu Ed, s'il est témoin, ce n'est pas parce que Dieu est notre Dieu qu'il n'est pas celui des nations. C'est ce que dit Rashi. Donc, je reprends ici ce que dit le Midrash. Vehu Ed, s'il y a un témoin. Le Midrash va très loin. C'est quoi le témoin? C'est Israël. Puisque le prophète Isaïe dit du peuple d'Israël, Atem Edaï, vous êtes mes témoins, Vani El, et c'est pour ça que je suis Dieu. Atem Edaï, Vani El. Donc le témoin, c'est Israël. Ve'ura'a, et il a vu. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu la révélation du Sinaï. Oshama, c'est quoi Shama? Il a entendu, c'est le schéma Israël. Imlo Yagid, s'il ne raconte pas, s'il ne témoigne pas, Venasa vous ne savez quoi témoigner. Si vous ne témoignez pas de ma divinité face aux nations, alors vous serez coupable. Venasa avonu. Donc il y a également donc un devoir d'Israël de faire connaître la volonté de Dieu aux nations, et c'est la raison pour laquelle vient dans le livre d'Isaïe et également dans le livre de Micha, il est dit que viendra un jour où les nations se diront montons à la montagne de Dieu, à la maison du Dieu de Jacob, et qu'il nous enseigne, Veyorenu Midrachav, qu'il nous enseigne ses voies. Venelcha Beorchotav, nous suivrons ses cheminements. Kimitzion Ketzetora Uvarachem Yerushalayim, car c'est de Sion que sort la Torah et la parole de Dieu de Jérusalem. Remarquez que cette belle phrase, Kimitzion Ketzetora, qui est bien connue, est prononcée par les goyim. Ce sont les goyim qui disent que la Torah sort de Sion, et elle sort vers où? Ben, elle sort vers eux, justement. C'est-à-dire qu'il y a une Torah qui leur est destinée. On appelle la Torah des goyim, alors qu'on n'a pas le droit d'enseigner la Torah des goyim, mais il y a quand même, chez les kabbalistes, cette distinction entre les mondes des lignes droites et le monde des lignes courbes, Yosher et Igoulim, et la Torah que nous n'enseignons pas aux nations, c'est celle qui est destinée à Israël, c'est celle du Yosher, des lignes droites. Mais il y a également celle des lignes courbes qui est destinée aux nations, Torah des Igoulim. Et donc, c'est, à nouveau, c'est une idée de Manitou. Maintenant, quelle est la différence entre ce que nous donne à nous la Torah et ce qu'elle donne aux nations? Alors, nous savons qu'il y a ce qu'on appelle Kedushat HaKlal et Kedushat HaPrat, la sainteté individuelle et la sainteté collective. Toute personne sur Terre, de quelque civilisation qu'elle soit, qui est intéressée à sanctifier sa vie, ben, elle peut le faire. C'est ce qu'on appelle Kedushat HaPrat, étant donné que l'homme est créé à l'image de Dieu. Donc, tout homme est à la capacité d'entrer en contact avec la divinité selon son comportement. C'est ce que dit le Midrash Tana de Eliyahu. Meidani alai shamayim va'aretz, je fais témoigner sur moi le ciel et la terre, ben ish ben isha, que l'on soit homme ou femme, que l'on soit libre ou asservi, que l'on soit d'Israël ou des nations, ruach hakodesh ora alav, l'Esprit Saint peut résider sur lui, akol lefi ma'asav, selon les actions qu'il fait. C'est-à-dire que ça suppose que même les nations peuvent avoir des prophètes, et ceci même aujourd'hui, pour commencer à répondre à une des interrogations de tout à l'heure. Mais alors, dans ce cas-là, pourquoi se convertir au judaïsme? Si je peux, moi, en tant que non-juif, accéder à la sainteté en étant à l'extérieur d'Israël, pourquoi devrais-je rentrer dans la communauté d'Israël? La réponse est très simple, c'est que je désire, en plus de la sainteté individuelle, je désire de la sainteté collective, la Kedushat HaKlal. Or, la sainteté collective n'existe pour l'instant que dans une seule collectivité, c'est celle d'Israël. C'est pour ça qu'Israël est appelé Am Hashem, le peuple de Dieu. C'est-à-dire, en tant qu'entité collective, nous appartenons à la divinité, ce qui n'est pas le cas des nations. Et donc, si un non-juif me dit, je ne suis pas satisfait par la sainteté individuelle, je désire appartenir à une communauté de sainteté, alors on lui dira, ben, c'est très bien, c'est la porte est ouverte, vous pouvez vous convertir au judaïsme. Mais, dit le prophète Zacharie, viendra un temps où des nations entières deviendront le peuple de Dieu. Je voudrais vous citer le verset. Roni vesimchi bat Sion, réjouis-toi, exulte, fille de Sion, ki ineni ba veshachanti betocher mashem, car je viens résider en toi, parole de l'Éternel. Vénilvou, goyim, rabim, elachem, vayomahou. Et de nombreuses nations, le mot goyim dans le Tanakh veut dire des nations, de nombreuses nations s'associeront à Dieu en ce jour. Vehayuli les âmes et seront pour moi un peuple. Donc on voit que dans le projet de l'histoire, des nations entières deviendront peuple de Dieu comme Israël l'a été dans l'histoire. C'est-à-dire que nous sommes les premiers à le faire, mais nous avons des suivants. C'est pour ça qu'Israël est appelé le premier-né de Dieu. S'il y a un premier-né, c'est qu'il y a des petits frères. Et donc, c'est l'aîné parmi les frères qui donne la direction, mais après, il y a un autre travail qui est la sanctification des communautés humaines. De nombreuses nations s'associeront à Dieu en ce jour et seront pour moi un peuple. Et qu'est-ce qu'il en sera d'Israël? Eh bien, Israël aura une élection encore plus grande. C'est-à-dire que nous passerons à cet état de choses où nous sommes tous les Kohanim, les prêtres des nations. C'est pour ça que la Torah dit, avant les 10 commandements, que vous serez pour moi, Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh, un royaume de prêtres, une nation sainte. Et donc, à partir du moment où nous passons à l'universel de la Torah, alors tout Israël devient des Kohanim. Qu'en sera-t-il donc de nos Kohanim? Eh bien, si on se tient aux paroles du prophète Ézéchiel, ils arriveront au stade de ce qu'on appelle Kohen Gadol. Ils deviendront donc du statut du grand prêtre. Et le grand prêtre lui-même, que sera-t-il? Eh bien, il deviendra Superman. Mais alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il en arrivera à Superman? Eh bien, il deviendra Spider-Man ou autre chose. En tout cas, donc, il y a une évolution permanente. Et c'est la raison pour laquelle la halakha dit que on ne convertit pas au temps messianique. Pourquoi ne pas convertir au temps messianique? Alors, certains disent parce que c'est trop facile de se joindre à la victoire. Non, c'est beaucoup plus fort que ça. Ça veut dire que se convertir est un traumatisme. Vous passez d'une identité nationale à une autre. C'est une souffrance. Si, mais c'est pourtant cette souffrance est acceptée pour recevoir ce qu'on appelle la sainteté collective. Mais viendra un temps où il y aura la possibilité d'acquérir la sainteté collective au sein de sa nation, donc il ne sera plus nécessaire de faire la conversion. Pourquoi vous avez dit pour le moment à propos ou la kedusha du peuple? J'ai dit pour le moment, pour la kedusha du peuple, pour une raison très simple, c'est que pour plus tard, il y aura ce qu'on appelle la sainteté collective chez les nations, comme je l'ai prouvé à partir du verset de Zecharia. Voilà, donc c'est pour l'instant, nous avons élucidé le problème donc de ce qu'on appelle la kedusha d'Aklal et par rapport à la kedusha d'Apra. Et puis, je voudrais revenir à la frustration des nations. Il y a une frustration qui est du fait de ne pas avoir reçu la Torah. Il y a un enseignement donné par le Graf Potocki. Le Graf, c'est un titre de noblesse en Pologne. Il y avait un noble polonais du nom de Potocki qui s'était converti au judaïsme. Secrètement, évidemment, à l'époque, se convertir au judaïsme était considéré comme une apostasie est coupable de mort. Finalement, après 3 années pendant lesquelles il a secrètement pratiqué le judaïsme, ça a été découvert et il a été condamné au feu. Il a été donc brûlé. Le Gaon de Vilna a dit que le Graf Potocki était une réincarnation d'Abraham Avinu. Abraham, en effet, a connu Dieu à l'âge de 3 ans. Mais donc il avait 3 années pendant lesquelles il n'a pas connu Dieu. C'est la raison pour laquelle il est revenu sur Terre en tant que converti pour 3 ans. Mais le Graf Potocki lui-même a expliqué pourquoi est-ce qu'il y a des personnes qui se convertissent au judaïsme. Il dit c'est très simple. Lorsque Dieu a proposé la Torah aux nations et qu'elles ont refusé, elles ont refusé en tant que collectivité, mais il y avait certainement des individus dans ces collectivités qui n'étaient pas contents de ça, qui voulaient recevoir la Torah. Et c'est la raison pour laquelle ces individus reviennent dans l'histoire en tant que convertis au judaïsme. Mais essayons de comprendre un peu plus qu'est-ce que c'est que cette histoire de Dieu qui propose la Torah aux nations. Le Midrash nous dit que Dieu la propose aux habitants de Séir, ce que nous avons vu tout à l'heure, ce sont les Édomites. Les Édomites qui sont l'archétype des Romains dans la tradition, et ils disent, nous ne pouvons pas recevoir la Torah parce qu'il est écrit dans les 10 commandements, tu ne tueras point. Or, toute notre bénédiction qui nous a été donnée par Yitzhak, c'est, tu vivras de ton épée, al-harbecha tirye. Donc, nous ne pouvons pas accepter l'otirza. Tu ne tueras point. Et puis après, il se rend chez les fils d'Ishmaël, et ils disent, nous ne pouvons pas accepter la Torah parce que notre bénédiction, c'est Yado Bakol, Yad Kolbo. Il s'emparera de tout, tout le monde s'emparera de lui. C'est-à-dire que notre capacité essentielle, c'est le rapt, le vol. Et donc, nous ne pouvons pas accepter la Torah qui nous dit, Lo tignov, tu ne voleras point. Et puis, le Midrash continue. Il est allé voir les descendants de Amon et Moab. Amon et Moab, ils ont dit, Lo tinaf, tu ne pratiqueras pas l'inceste. Or, nous sommes issus d'un inceste puisque notre ancêtre, Lot, a couché avec ses filles. Donc, nous ne pouvons pas accepter la Torah qui dit Lotin Af. Et finalement, il la propose à Israël, et Israël l'accepte, ils disent Naaseh Venishma. La question se pose. Tout d'abord, ces mitzvot, Lotirzah, Lotin Af et Lotignov, ce sont des mitzvot universelles qui appartiennent quand même aux 7 commandements noachides. Donc, comment est-ce que vous pouvez ne pas les accepter? Et puis, à part ça, on peut se poser la question, les Juifs aussi, ils ont des parfois, ils transgressent la Torah. C'est-à-dire, si la peur des nations, c'est à cause de la transgression de la Torah, Alors pourquoi est-ce que Israël a accepté la Torah alors que parfois nous avons également des Juifs qui malheureusement assassinent ou font de l'inceste ou volent? Ça existe. Alors la réponse est très simple. Si un Juif transgresse la Torah, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire teshuva. Et la teshuva est efficace. Donc les nations auraient très bien pu accepter la Torah et se baser sur la teshuva pour réparer. C'est-à-dire que quand ils disent nous sommes enclins au meurtre, au vol, etc., c'est une description de leur yetzer hara, de leur mauvais penchant. Mais il y a en tout homme également le bon penchant, le yetzer hatov. Alors pourquoi ne pas avoir accepté la Torah? C'est probablement parce qu'ils n'acceptent pas l'idée de la teshuva. C'est-à-dire l'efficacité de la teshuva n'est pas connue par eux. Et c'est la raison pour laquelle ils n'ont pas voulu la Torah. Donc, si les enfants d'Israël, eux, ont accepté la Torah, c'est parce qu'ils ont la foi en l'efficacité de la teshuva. Mais malgré tout, bonjour, Rav, l'évolution biologique passe forcément par une évolution morale, avec un E après le mot moral. Non, pas forcément. Mais je vois pas très bien le rapport. Alors pourquoi El Harbecha Tirfie? Il n'y a pas El Harbecha Tirfie, il y a Al Harbecha Tirfie. Donc, oui, Al, très bien. Oui, il y a le Al Harbecha Tirfie, c'est-à-dire que dans l'histoire, la destinée des Béné Édom, c'est l'épée. Ça ne veut pas dire que cette épée ne peut pas être utilisée en bien. Par exemple, c'est la tentative de l'ONU de faire ce qu'on appelle des forces armées internationales pour établir, pour imposer la paix. Bon, ça n'a pas tellement marché jusqu'à présent, mais le principe existe. Donc maintenant, revenons à l'histoire donc des nations qui finalement reconnaissent au niveau de ce qu'on appelle la morale universelle la validité de la morale qui interdit de tuer, de voler et de pratiquer l'inceste. Simplement, ce que les nations ne veulent pas, c'est pas qu'elles ne veulent pas accepter les lois de la morale, elles ne veulent pas accepter que ce soit une mitzvah. Il y avait, parce que l'idée de la mitzvah fait peur. C'est Israël qui a choisi la Torah ou c'est Dieu qui nous a choisis? C'est Dieu qui nous a choisis et pourtant il nous a demandé notre avis. La Torah, ce que les goyim ne veulent pas, c'est que ce soit une mitzvah. La mitzvah fait peur, parce que s'il y a transgression de la mitzvah, alors ça veut dire que la condition de ma relation envers la divinité, c'est l'accomplissement de la mitzvah. Or, je ne peux pas ne pas pécher, et donc je risque de perdre mon lien avec la divinité. C'est la raison pour laquelle les premiers chrétiens ont aboli les mitzvot. Ils ont dit, puisque les mitzvot sont une embûche, sont un piège, parce que si je dois accomplir les mitzvot, ça veut donc dire que les mitzvot vont entraîner forcément le péché. Plus il y a de mitzvot, plus il y a de péché potentiel. Donc, c'est un malheur, les mitzvot. C'est pour ça que dans les évangiles, il est dit que Jésus nous a libérés de la malédiction de la loi. Et en réaction à cela, vous avez l'enseignement de Rabbi Hanania ben Akasha qui dit que Dieu a voulu donner du mérite à Israël et c'est pour ça qu'il leur a donné abondance de mitzvot. Or, il y a dans les actes des apôtres quelque chose d'absolument incroyable. Après l'abolition des mitzvot par Paul, la première communauté chrétienne qui vivait à Antioche, en Syrie, a commencé à vivre une vie de débauche. Alors Paul, effrayé, leur envoie une lettre en leur disant, mais qu'est-ce que c'est ces histoires? Comment est-ce que vous vous comportez? Ils répondent, mais c'est toi qui as dit que tout était permis puisque la loi est abolie. Et il leur répond, tout est permis, mais tout n'est pas convenable. Ce qui veut dire, les commandements de la morale naturelle doivent être observés même après l'abolition des mitzvot, mais c'est ce qu'on appelle dans la Gemara She'eno mitzuveh ve'oseh, c'est-à-dire là ce n'est pas par obligation que je le fais, mais c'est par devoir moral. Et She'eno mitzuveh ve'oseh, ce qui est moindre d'après la Gemara dans Bava Kamma, c'est-à-dire que Et alors, quel sera le lien avec la divinité? Ce sera le canal de la foi. C'est la foi qui sauve et pas les actes. Tandis que dans le judaïsme, c'est les actes qui sauvent et pas la foi. Ce qui vous explique donc ce dogme qu'on voit chez les chrétiens, qui est que on peut être pécheur, mais quand même sauvé par la foi, tandis que si on est vertueux par les actes, mais qu'on n'a pas la foi, alors on est damné. Ce qui est assez grave du point de vue du judaïsme. Donc, les nations se sentent concernées. Il y a, est-il vrai que les religions d'Extrême-Orient ont été propagées à partir des enfants d'Abraham? Ça, c'est à nouveau les questions, ça n'en finit plus avec vous. Vous avez parlé tout le temps des religions d'Extrême-Orient. Et là, je voudrais quand même faire quelques petites remarques. Il y a dans la Torah une description de la chute de l'humanité. Cette description de la chute de l'humanité se fait en deux phases. Vous avez la chute, la deuxième chute, qui est la tour de Babel, la révolte de l'humanité contre Dieu lors de la tour de Babel. Et vous avez la chute antérieure, la première. C'est celle de la génération de Énoch. Énoch, le petit-fils d'Adam et Ève, qui lui était l'inventeur de l'idolâtrie. Et c'est quoi le mot Énoch? Ça veut dire l'oubli. C'est-à-dire, ce n'est pas une révolte, c'est simplement un éloignement de l'origine. Quand on s'éloigne de l'origine, on oublie l'origine. Maintenant, sans rentrer dans tout le détail des versets qui pourraient nous éclaircir là-dessus, selon la Torah, l'humanité est divisée en deux grands domaines. Le domaine occidental et le domaine oriental. Énoch ne vient pas de Énochoud, par contre, non, c'est Énochoud qui vient de Énoch. Et donc, il y a dans la, il y a donc deux grands domaines, la civilisation orientale et occidentale. Le prophète Isaïe en parle dans le chapitre 59. Simplement, ça veut dire que la partie occidentale du monde est dans la culpabilité de la tour de Babel, la révolte. Tandis que la partie orientale, à partir du Punjab vers le Japon, c'est une civilisation qui est coupable de l'oubli, de la faute de la génération de Enoch. Or, si vous regardez l'histoire, non seulement ces deux domaines se sont à peine rencontrés pendant le temps de l'histoire, mais également les Juifs se sont dispersés essentiellement dans la partie occidentale et presque pas dans la partie extrême-orientale. Parce que le travail immédiat des enfants d'Abraham, c'est de réparer la faute de la tour de Babel. Une fois cela achevé, ça nous a pris presque 4000 ans pour le faire et nous sommes revenus en place, c'est le moment maintenant de commencer à rayonner sur l'extrême-orient. Et c'est pour ça que nous commençons par ce qu'on appelle l'écorce qui vient avant le fruit, Klipa Kodemet Lapri, expression kabbalistique. Et nous envoyons nos jeunes Israéliens après l'armée se chercher en Inde ou en Thaïlande. Ils vont récolter là-bas des étincelles. Les étincelles ne sont pas toujours très belles à voir, mais en tout cas, ce sont des étincelles quand même. Et à partir de là, s'ouvre la porte pour un rayonnement sur les civilisations extrême-orientales qui ont un sens en tant que descendants, si vous voulez, de la faute de Énoch. Et ça n'a rien à voir donc avec la faute de la tour de Babel. Remarquez une chose intéressante, c'est que l'ancien nom de la Chine, en chinois, c'est Caïn. Caïn, tiens, tiens donc, ça nous rappelle quelqu'un. C'est-à-dire que il y aurait en parallèle à l'histoire des descendants de Noir, il y a une autre histoire qui, elle, a un sens et qui attend, disons, qui est en salle d'attente pour la rencontre avec le peuple d'Israël. J'ai pu moi-même d'ailleurs voir aussi bien à Taïwan que dans les Philippines que en Inde un début d'intérêt pour le message d'Israël pour les nations et ça c'est effectivement très fort. Ce que m'a dit une fois un Japonais de haut niveau, il m'a dit le rôle d'Israël c'est de préserver l'entretien du canal de la transcendance dans l'histoire. C'est-à-dire Dieu est présent dans l'histoire, la transcendance il fait irruption dans l'immanence, et celui qui entretient la cheminée, si vous voulez, du rapport entre l'infini et le monde, c'est Israël. Si vous voulez, donc, nous avons un rôle important, c'est celui d'être les ramoneurs des cheminées de Dieu. Les ramoneurs sont souvent un peu sales, c'est pour ça que nous avons pas toujours très beau à voir. Maintenant, je voudrais rentrer un peu plus dans le détail de ce qu'on appelle, non, avant ça, tout d'abord dans le traité de Avodah Zarah. Le traité de Avodah Zarah, c'est le traité dans le Talmud qui parle des nations, justement. Des nations qui sont mal vues, d'ailleurs. Ce sont des nations idolâtres. Et donc, il y a une polémique très forte contre les nations. Mais d'autre part, la préoccupation de la Guémara, c'est de savoir, mais qu'est-ce qu'il en sera en fin d'histoire? Comment est-ce que l'humanité sera jugée par le Créateur lui-même? Et là, la Guémara nous amène un midrash absolument incroyable, qu'en fin d'histoire, Dieu prendra un rouleau de la Torah qu'il mettra dans son sein. Et il dira, tous ceux qui se sont occupés de ce qui a écrit dans ce livre, eh bien, viendront recevoir leur récompense. Et donc, qui c'est qui s'est occupé de la Torah? Brusquement, le Midrash nous dit, toutes les nations viennent en mélange recevoir leur récompense. Une seconde. Et les nations viennent recevoir leur récompense. Et pourquoi est-ce qu'elles viennent recevoir leur récompense? Parce que tout ce que nous avons fait dans l'histoire, nous avons créé la civilisation universelle, mais nous avons aussi pour qu'Israël puisse étudier la Torah. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est évidemment vrai. Ça veut dire que quand Dieu donne la Torah, il la donne dans un monde civilisé. Il fallait donc que quelqu'un civilise le monde. Donc les nations l'ont fait. Ils l'ont fait pour qu'il y ait un sens à la Torah que Dieu donne à Israël. Et donc, de ce point de vue-là, les nations ont raison. Réponse de Dieu, vous êtes des imbéciles. Shotim Shebaola. Vous êtes des fous. Pourquoi? Parce que vous avez fait ça dans votre intérêt. Ça veut dire que il y a souvent dans les grandes civilisations une prétention à l'universel qui en fait cache un impérialisme. Vous avez essayé d'imposer votre identité aux autres. Et donc c'est pour ça que finalement les nations sont rejetées. Mais alors, dit la Guémara, les nations disent, mais est-ce qu'on ne peut pas quand même recevoir une mitzvah? Est-ce qu'on ne peut pas recevoir une mitzvah pour réparer tout ça? Et Dieu leur dit, c'est un peu tard, mais malgré tout, je n'agis pas avec vous en tyrannie, et donc je vous donne une mitzvah, la souka. Et alors chacun fait sa souka. C'est quoi une souka? Ben, la souka, c'est la capacité de faire la paix. C'est-à-dire, la Guémara dit, tout Israël peut vivre dans une seule souka. Ça veut donc dire que tout Israël peut vivre en paix. Et donc, le projet des nations à la fin de l'histoire, c'est de réaliser la paix. On peut dire que c'est ça la tentative de l'Organisation des Nations Unies. Mais comme il fait trop chaud dans la souka, finalement les nations donnent un coup de pied à la souka et s'en vont. C'est quoi ce coup de pied? Pourquoi c'est quoi la chaleur de la souka? C'est qu'il y a parfois des moments où la violence revient sur la terre. Alors, Dagmar dit, oui, d'accord, mais quand il fait trop chaud dans la souka, on est dispensé de rester dans la souka. Quel est le problème? Oui, on est dispensé. Mais on n'a pas besoin de donner un coup de pied. C'est-à-dire, il y a une volonté des nations de se libérer de l'emprise de la Torah, et c'est ça qui juge les nations à la fin de l'histoire. Donc chaque nation sera jugée par rapport à sa relation envers les enfants d'Israël. Et ça fait partie donc du projet universel qui demanderait effectivement toute une étude en soi. Comment est-ce que chaque nation a sa relation particulière envers Israël? Et pour l'instant, avant d'arriver à ce jugement de l'histoire, il y a ce qu'on appelle le noachisme. Le noachisme, c'est la loi des nations. Alors, comme vous le savez, Maïmonide dit, comme le dit Maïmonide et comme dit la Guémara, pour faire partie de ce qu'on appelle l'identité Ben Noach, Noachide, il faut faire une déclaration officielle devant trois rabbins comme quoi telle personne accepte les lois Noachides. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai fondé une organisation internationale, Brit Olam, dans laquelle les nations, des membres des nations viennent et font la déclaration officielle de l'acceptation des lois Noachides devant trois rabbins. Et nous avons pour l'instant de nombreuses, plusieurs milliers, peut-être des dizaines de milliers d'individus sur Terre qui sont intéressés par ça et qui font ces déclarations. Et puis, il y a également la vie religieuse. Cette vie religieuse a besoin pour cela d'un rituel. C'est la raison pour laquelle j'ai écrit un rituel pour les nations du nom de Brit Olam. Mais il y a également des lois, ce qu'on appelle des halakhot. Les sept commandements, ce n'est qu'un minimum. Il y a toute une législation extrêmement développée qui concerne également les goyim. Ils ont besoin pour cela d'un Shulchan Aruch. C'est la raison pour laquelle j'ai écrit également un Shulchan Aruch qui s'appelle Berit Shalom, qui a été traduit pour l'instant en 17 langues seulement et qui attend d'être traduit encore dans une centaine de langues. On verra bien. Pour l'instant, c'est dans 17 langues. Le Sidour n'a été traduit que dans 6 langues. Je peux faire 6 ou 7 langues, j'ai oublié. En tout cas, il y a tout un projet qui commence aujourd'hui à être appliqué et qui m'a amené également à des relations assez intéressantes avec le monde musulman, ce à quoi je ne m'attendais pas. Mais il y a un intérêt également au sein de l'islam pour une sorte de rétablissement de leur légitimité du point de vue du judaïsme. Bon, ça leur demandera tout un travail, mais ce travail est déjà entamé. Nous avons fait un très court tour d'horizon. En vérité, l'universalisme de la Torah demande une étude qui peut prendre beaucoup d'heures, mais nous ne les avons pas devant nous. Merci de votre attention et bonne fête de Shavuot.